There's something going on, Maria. Go to Brussels. Go to Paris. I was in Brussels a long time ago, 20 years ago.
Son salaire était parfaitement justifié.
It's like living in a hellhole right now.
Les farouches des étourneaux.
Le podcast.
Allez, on est reparti pour un tour dans l'effarouchement des étourneaux. Je vais essayer de tenir un rythme un peu plus régulier, d'autant que j'ai constaté que je pouvais faire les podcasts en mobilité complète, donc ça devrait faciliter un peu les choses. Et j'aimerais pour ce retour vous parler du Motorola Z2Play avec lequel je me balade depuis maintenant 3 mois. C'est pas franchement du test pour le plaisir du test, mais simplement parce que il me semble que ce téléphone marque un jalon dans l'histoire du mobile et je vais vous en parler. L'histoire de mon test du Motorola Z2Play commence en fait en 2006. Alors je vous explique pourquoi, c'est assez simple. En 2006, Nicolas Hulot fait paraître un livre qui s'appelle Le Pacte écologique, dans lequel il explique qu'il faut absolument évoluer vers une société durable et en tout cas une société d'une consommation plus responsable. Et pour illustrer son propos en matière économique, il évoque le succès, la modification, la transformation de l'entreprise Xerox, qui est un géant américain qui produit des photocopieurs et des imprimantes. Il démontre donc dans le pacte écologique comment Xerox a été contrainte et forcée de changer de modèle économique, puisque les entreprises passaient massivement à un modèle, on va dire, de leasing d'imprimantes plutôt que de l'achat, puisque ils préféraient louer leurs imprimantes plutôt que de les acheter et de les rendre obsolètes rapidement, ce qui font des gros trous dans les comptabilités des entreprises. Et Nicolas Hulot nous explique comment Xerox, étant forcé et contraint de changer pour un modèle à location, a aussi du coup pensé et réfléchi ses matériaux pour que ils soient plus facilement réparables ou en tout cas remplaçables, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir à changer un matériel complet à chaque itération ou à chaque nouvelle montée de gamme, Xerox a créé des modules dans lesquels il était possible soit de remplacer une pièce, soit de remplacer toute une partie de mécanique, mais aussi d'être capable de, dans une carlingue un peu type et un peu standard, de faire une montée de gamme de matériel ou de préparer la prochaine génération. Alors j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête et je me suis dit, mais au fond, si on devait appliquer le même principe en mobilité, c'est-à-dire soit parce que les gens ne veulent plus l'acheter mais veulent le louer, ou parce qu'un constructeur écologiste, se dit tiens, je vais me mettre à produire des téléphones qui soient plus facilement soit réparables, soit évolutifs, mais je me suis toujours demandé comment ça pourrait s'appliquer en termes de téléphonie. Et c'est dans ce contexte qu'est née ma rencontre avec le projet ARA, que je vous évoque dans un instant. En 2013, un designer hollandais du nom de Dave Aken donne un petit coup de pied dans la fourmilière bien ronronnante, il faut le dire, de la téléphonie mobile, avec un concept qui s'appelle le phone block, la vidéo est encore trouvable sur le net, dans lequel il imagine un téléphone complètement modulaire, complètement évolutif, complètement remplaçable, où chaque élément du téléphone lui-même est en fait un bloc, comme une brique Lego, dans laquelle se retrouvent les composants, qui sont attachés sur une carte mère, une sorte de plaque Lego, elle aussi, et qui permettrait comme ça d'avoir un téléphone qui soit complètement évolutif, adaptatif et réparable. L'écran casse, on change l'écran, le processeur évolue, on change le processeur, on met une nouvelle génération, la caméra ne nous satisfait pas, on peut aller chercher des blocs de plus haute qualité, de meilleure résolution. Le concept va tout à fait dans le sens de ce que je vous expliquais par rapport à Nicolas Hulot, à la remplaçabilité, les économies cycliques, et un peu à contre-courant, il faut le dire, de ce qui se fait dans le monde du mobile à la même époque, puisqu'on est à une époque où Samsung abandonne sa batterie remplaçable pour une batterie inamovible, où Apple fait un peu scandale sur le secteur aussi avec des terminaux irréparables ou en tout cas très difficilement réparables. Et bah, ce concept va un peu à contre-courant. Et il faut dire que du côté de Motorola, ce concept titille vraiment, puisqu'une équipe qu'on appelle l'équipe ATAP est en train de travailler sur un concept un peu similaire, dans le plus grand secret. Et effectivement, le petit buzz là créé par Dave Aken les perturbe, les titille, parce qu'ils sont en train de travailler sur un concept à peu près similaire, sans doute d'une forme un peu différente, mais qui va dans le sens de plus de réparabilité et plus de modularité. Donc il va de soi que l'équipe de Motorola contacte le designer hollandais. Motorola est totalement en phase avec l'idée de Aken. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on est en 2013, Google vient de racheter la firme Motorola pour une histoire de récupération de brevets, mais aussi peut-être pour en faire une espèce de tête de pont technologique. Alors, dans les divisions R&D, il y a une personne qui s'appelle Regina Dugan, qui travaille pour Google, et qui a un peu insufflé cet esprit de modularité, et en tout cas l'a récupéré au sein de Motorola et a réussi à faire vivre cette idée-là. Quand elle rencontre l'idée d'Aken, il y a convergence. Alors elle propose, pour la petite histoire, à Aken de travailler avec l'équipe ATAP. Mais lui dit, moi je suis designer, je suis pas développeur, et par contre je suivrai avec intérêt ce que vous faites. Et bah, c'est comme ça que au sein de Google Motorola naît ce qu'on maintenant on apprend à connaître, hein, puisque c'est avec le buzz, on découvre le projet en lui-même, mais on découvre le projet dit ARA. Qui est le concept de Google, l'interprétation par Google de la modularité. Alors, il faut savoir aussi que Regina Dugan est très très inspirée et influencée par l'esprit DIY, le côté maker faire, les Fab Labs, etc., qui sont en train d'émerger aux États-Unis. Et elle se dit que bah, pourquoi pas imaginer un téléphone modulaire qui soit à la fois un téléphone qu'on peut complètement composer à sa main, enfin, c'est-à-dire le rendre le plus personnalisé possible en fonction de composants qui nous plairaient vraiment, mais qui soit aussi comme ça dans cet esprit DIY avec, à l'époque folle de toutes les imaginaires, Google imagine même qu'on va pouvoir se rendre dans des food trucks de téléphones dans lesquels on pourra arriver et dire ok, bah, je voudrais un téléphone qui ait tel composant, tel composant, tel composant, tel composant, et façonner son téléphone comme on façonnerait un sandwich. Alors, je vous mettrai des liens qui m'intéressent un peu d'aller voir, c'est la genèse de ce projet complètement fou, et qui montre aussi que Google est allé assez loin, puisqu'il est arrivé jusqu'à un certain prototypage, avec même du test du food truck à Porto Rico. Sauf que voilà, on imagine bien que les belles histoires ne se finissent pas toujours bien, c'est pas toujours des beaux contes de fées, et bah, le projet ARA n'a jamais vraiment vu le jour, et je vous explique pourquoi dans un instant. On est en 2014 et l'équipe d'ATAP est donc un projet d'une équipe. Alors l'équipe ATAP, ça veut dire Motorola Advanced Technology and Projects Group, donc c'est bien un projet Motorola. Comme en fin 2012 Motorola a été racheté par Google, bah, c'est devenu un projet Google. Donc l'équipe technologie et R&D au sein d'un manufacturier de téléphone Motorola appartenant à Google, une firme technologique. Et donc on va dire qu'il y a un bon train, quoi. C'est-à-dire que Google a envie que ce type de projet innovant se développe parce que c'est bon pour son image de marque et pour son côté développeur. Donc ils mettent à la tête une personne qui s'appelle Regina Dugan, qui est un historique de chez Google et qui aime bien quoi, ce concept de téléphone remplaçable, cette possibilité d'évolution, d'évolutivité, cette possibilité de composer soi-même. Ça va dans une logique un peu maker-faire, DIY, qui est en train d'émerger partout dans le monde. Et bah, Google est assez fier, je pense, de faire partie de ce mouvement-là. Et effectivement, plus la firme de Cupertino, Apple, est en train de fournir des téléphones préformatés, plus le ARAphone se devrait d'être personnalisable et adaptable aux besoins des utilisateurs. Ils vont pousser la folie jusqu'à même imaginer que le téléphone, on ne va pas l'acheter dans un magasin pur et dur à l'ancienne, mais plutôt dans une sorte de food truck qui permettrait à tout un chacun de choisir une base de téléphone et puis de composer son téléphone idéal en accumulant les composants idéaux. Donc cette idée-là, elle va germer, et c'est l'idée un peu folle de Google de se positionner sur un téléphone modulaire et de créer l'innovation. Mais en 2014, Google, dont l'ambition était probablement surtout de mettre la main sur les brevets mobiles de Motorola, elle décide de revendre Motorola, le fabricant, à Lenovo, le constructeur chinois. Alors, c'est un peu problématique pour l'équipe ATAP, puisque ATAP, qui était une section R&D au sein d'un manufacturier détenu par Google, va continuer chez Google, qui se réapproprie l'équipe, mais n'a plus le support, on va dire, direct du manufacturier qui, lui, passe chez Lenovo. On sent que du côté de l'équipe et du projet, il y a un peu de lag, comme diraient les joueurs, et que la belle histoire est en train un peu de grincer dans les rouages. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que plusieurs projets sortent, on va jusque même certains concepts assez évolués avec plusieurs essais. On voit des vidéos, et elles sont disponibles, j'essaierai de vous les mettre à disposition, de différents prototypes, vraiment des form factors, des trucs qui sont vraiment tout à fait testables et vérifiables pour voir comment ça peut marcher. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans la routine à laquelle Google nous avait habitués. Et ça se confirme un peu plus tard, puisque Reginald Dugan va même jusqu'à quitter le navire, laissant le projet orphelin d'un concepteur, d'un créateur, d'un penseur. Et les équipes ATAP, on sent qu'elles ont un problème à aller plus loin de l'avant. En tout cas, c'est l'impression qu'elles donnent dans la presse spécialisée. Puis, il faut se dire aussi qu'à la même époque, Google, qui a certes gardé l'équipe ATAP, est devenu un groupe qui s'appelle Alphabet, et Alphabet a décidé de jouer un peu moins à faire les savants fous et arrête toute une série de projets un peu phares en termes de R&D, un peu fous en termes de R&D. C'est notamment à l'époque que les ballons satellites dont Google voulait équiper l'Afrique disparaissent. Et pour le projet ARA, ils disent « Ok les gars, vous avez deux ans pour que ça sorte. » Et il va falloir nous démontrer que c'est possible de sortir un téléphone efficace qui donne envie. Alors, à cette pression, on va dire, de Google, à sa désaffection d'un directeur qui soit vraiment la tête pensante et le leader du projet, viennent s'ajouter des déconvenues marché, puisque à la même époque, LG a lancé un G5, qui était le premier véritable téléphone modulaire disponible sur le marché, ou en tout cas venant d'un gros constructeur. Et commercialement, ça fait un peu un flop. Donc fin 2015, début 2016, ce projet d'LG sort, et que le public ne suit pas, les ventes ne suivent pas, et que la presse spécialisée se demande pourquoi on a sorti ça, Google se pose des questions et met un peu la pression sur ses équipes ARA. Et on continue le projet. Il y a des SDK qui sont mis en place, on noue des partenariats technologiques avec des constructeurs de modules. Mais à la base, on devait avoir un téléphone qui, pour 50€, devait être viable. Le prix évolue progressivement. Et puis, même certains tests qui sont faits, notamment à Porto Rico, démontrent que le grand public, hors geek, hors belles idées, eux n'ont pas forcément envie d'acheter un téléphone modulaire. J'y reviens. Mais parce qu'en fait, les tests qui avaient été poussés assez loin du côté de Porto Rico avaient déjà donné quelques signaux. Effectivement, le food truck a circulé dans les rues de Porto Rico avec les effets d'annonce qui vont bien. Mais les équipes marketing de Google se sont rendu compte qu'en fait, les gens, ils s'en foutaient complètement d'avoir un téléphone complètement fabricable de A à Z, avec des besoins et des CPU et des cartes graphiques et des éléments comme ça qui soient rajoutés au gré des envies. En fait, ils se sont rendus compte que la plupart des gens, monsieur, madame, tout le monde, avaient juste envie d'un téléphone qui fonctionne bien avec un minimum de fonctionnalités efficaces pour un prix assez modique. Effectivement, aussi, du côté du prix modique, Google, comme je viens de le dire, a dû un peu revoir ses ambitions à la hausse, puisque sortir un téléphone viable pour 50€, ils se sont rendu compte que c'était assez difficilement faisable. À ça, on va ajouter aussi que en R&D et en développement produit, on s'est rendu compte que les systèmes d'accroche de blocs ou de glissières, on est passé par des clips, on est passé par des glissières, que finalement c'est pas très pratique, quoi, et que à moins d'avoir des mini blocs qui vont se détacher facilement, ou des plus gros blocs mais qui du coup perdent un peu la philosophie originelle du projet ARA. Et d'ailleurs, Dave Hackens a signalé qu'il trouvait que le projet avait vraiment tellement évolué qu'il reconnaissait plus son phone block à l'époque. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au fur et à mesure, Google retarde les annonces de commercialisation pour finalement, fin 2016, dire ok, on va le sortir, et puis non, on va pas le sortir, on va le sortir un peu plus loin. Et finalement, ne plus jamais le sortir du tout, puisqu'ils ont proposé à un moment en septembre 2016, ils ont proposé de remettre le projet ARA sous licence à un repreneur. Personne ne se manifeste et le projet est purement et simplement abandonné. Ce qui fait que du coup, les seules personnes susceptibles de travailler encore sur un projet modulaire sont des gens tout à fait en dehors de cet écosystème ARA Motorola. C'est par exemple les gens du Fairphone. Je ne vais pas l'évoquer là pour ne pas évoluer, pour pas diverger et digresser trop longtemps. Mais il ne reste plus que les gens du Fairphone et sans doute chez Motorola, quelques transfuges qui seront restés avec ce concept-là. Et c'est de là qu'est né, à mon avis, j'espère que quelqu'un de chez Motorola pourrait me contredire si je me trompe, mais qu'est né le projet Mods, les projets Motorola Mods, qui lui aussi découle de ce principe de modularité, même si on est beaucoup moins dans une logique, on va dire, de réparabilité ou de commerce durable, hein, mais juste une récupération de concepts en se disant, bah, tiens, au fond, je peux partir d'une base de téléphone et y ajouter toute une série de mods. Et technologiquement, ça reste quand même intéressant et je vous en parle dans un instant. Premier semestre 2016, à peu près à la même époque que LG et son G5, qui fera un peu le flop que l'on sait, Motorola Lenovo lance aussi son premier téléphone modulaire en parallèle de la fin du projet ATAP. Et c'est ainsi que naît la gamme Moto Z dans une marque Motorola qui est en pleine restructuration et en pleine recherche de crédibilité déjà sur le secteur des terminaux mobiles. Hein, Lenovo à l'époque, c'était pas une marque qui était synonyme, on va dire, pour le grand public, en tout cas le public américain, de téléphone haut de gamme. Donc c'est une marque qui se cherche et qui lance le projet Moto Z avec des modules qui sont un peu issus de la même idée que le projet ARA et les phone blocks. Par contre, j'arrive pas à savoir si ce sont des transfuges du projet ATAP qui sont revenus bosser chez Motorola ou si Motorola avait gardé depuis sa revente à Lenovo des concepts de ce style-là. Enfin, toujours est-il qu'on est dans la consanguinité la plus absolue en termes d'idées. Et Motorola lance un projet de téléphone beaucoup moins modulaire que ne l'est le projet ARA, mais peut-être beaucoup plus réaliste dans sa conception, puisqu'ils imaginent un téléphone basique, quoique un peu cher, qui tourne autour des 400 euros, donc c'est du milieu de gamme, auquel on ajouterait toute une série de modules pour rendre l'expérience meilleure sur certaines thématiques. La photo pour commencer, la musique avec des enceintes JBL, ou éventuellement même un pico projecteur qui permet d'améliorer l'expérience du téléphone. Alors ça fait pas vraiment un flop, ça fait pas vraiment une réussite de masse, mais je pense que on sent que du côté de l'histoire du Moto Z et de ces mods là additionnels, tout n'a pas été dit, tout n'a pas été fait, et dans une marque qui est en train de se chercher une crédibilité, et on sent que ce projet de mods a quelque chose à faire, a quelque chose à dire, et on aimerait bien, enfin moi j'aimerais bien en tout cas, pour la beauté de la technologie, que la marque puisse aller au bout de ses idées et puisse être auréolée d'un certain succès qui assure une certaine viabilité au concept de mods. Alors avant de parler de stratégie marketing autour du mode, ce que j'aimerais quand même préciser, parce que je trouve intéressant, j'aimerais revenir un instant sur la partie vraiment technologique des modes, qui, à mon sens, constitue une évolution technologique majeure, dont je pense, peut-être je me tromperai et on fera un podcast sur le sujet, constitue une évolution majeure en termes d'interopérabilité entre un téléphone et un environnement extérieur. En effet, si le phone block était un concept avec des clips et des glissières qui permettaient d'ajouter les modules, si le LG G5 reprenait peu ou prou le même type de fonctionnement, si même le Fairphone constitue toute une série de petits modules qui sont clipsables sur une carte mère et en font un téléphone facilement remplaçable, chez Motorola, on a imaginé une technologie d'accroche qui soit le plus simple possible, la plus évidente possible, en passant par une technologie d'aimant. Alors, dit comme ça, effectivement, on a l'impression que c'est une évidence, et c'est peut-être aussi comme ça que ça a été pensé, puisque les ingénieurs chez Motorola, et j'ai lu sur le sujet un super article où Paul Fordham, qui est le lead mechanical architect pour les mods, a longuement évoqué la genèse des projets mods, en fait, ils se sont dit, il faut trouver une technologie pour la modularité qui soit connue de tout le monde, dont tout le monde ait une expérience, hein, tout le monde connaît un aimant et sait ce que ça peut faire, et qui permette du coup un ajout et un retrait super fluide, super simple de modules additionnels sur un téléphone, sans que dans l'esprit des gens en tout cas, on se dise « oh là là c'est compliqué, oh là là ça va casser, oh là là c'est cheap, oh là là », etc. Et c'est vrai que du côté de l'ajout d'un mode sur les Motorola Z, on est dans une expérience qui est alors super, super fluide. On ajoute et on retire le mode comme si c'était une évidence. Et je pense vraiment qu'en technologie, ça peut faire un game changing. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai l'impression qu'on est sur un trend en fait là, un début de trend en tout cas, puisque j'ai lu ou vu, je ne sais plus, que le Ascension Phone, c'est-à-dire la marque qui a été créée par Andy Rubin c'est quand même le papa d'Android, hein, donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait en termes de téléphonie, lui aussi va utiliser une technologie d'aimantation, pas la même que Motorola, qui sans doute est brevetée, mais pour ajouter au téléphone Essential toute une série de modules additionnels, comme par exemple une caméra 360, j'ai vu dans les annonces du Essential. Alors comment fonctionne ce principe d'aimantation? C'est là que c'est assez génial de lire ce qu'ont fait les ingénieurs, c'est en fait de travailler sur les principes magnétiques et de voir comment trouver le maximum d'accroche, enfin le maximum d'accroche possible sans contraindre ni altérer les propriétés du téléphone mobile. Paul Fordham se penche, on découvre en fait un vrai travail super intéressant, et ça me semblait intéressant de vous en parler, sur le travail en binôme qu'ont effectué les équipes design, marketing, plutôt orienté marketing, et les équipes ingénierie pour travailler autour de ce principe de mode aimanté. En effet, tout le challenge résistait dans le fait de trouver un système d'accroche qui permette non seulement de transmettre le magnétisme au mode de téléphone, mais aussi une certaine puissance pour que ça accroche bien les deux parties du téléphone, et donc il faut être capable de souder au téléphone un mode d'environ 200 grammes quoi. Et on va voir aussi comment pour arriver à ce challenge technologique, et les équipes techniques, ingénierie, ont travaillé avec les équipes design pour que on n'arrive pas à des téléphones complètement affreux et qui ne donne plus du tout envie au public de les acheter, ce qui est d'ailleurs, à mon sens, un des points faibles du Fairphone. Le Fairphone n'est pas beau. À partir du moment où on fait un téléphone pas beau, certes pratique, mais pas beau, on n'a pas forcément envie de l'acheter, et c'est bien dommage vu les promesses de commerce équitable qui sont fournies par le Fairphone, ainsi que de remplaçabilité de certains matériels qui sont écologiquement viables. Donc ça, c'est un travail sur lequel Motorola, lui, qui n'a pas du tout cette démarche éco-responsable, en tout cas pas de manière flagrante, a travaillé pour rendre son système de mode attractif. Et c'est comme ça qu'ils sont passés parfois par des systèmes où on se disait « Ok, on va mettre 80 broches, moi j'exagère, 80 non, mais 40 broches aimantées, non, ils sont revenus à 16 broches aimantées en bas du téléphone. » Comment les équipes ingénierie ont dû aussi travailler sur tout ce qui est logique de champ magnétique, puisque quand on crée un champ magnétique dans un téléphone, on crée aussi quelque chose qui risque de venir gêner la qualité audio de l'antenne, la réception de l'antenne. Donc tout ça sont des travaux qui ont dû être faits en partenariat avec les équipes design, puisque le champ magnétique existe, il faut qu'il soit placé dans la coque du téléphone à un endroit où il ne gêne pas l'antenne et où on ne gêne pas non plus les possibilités d'avoir un design efficace et plus ou moins joli. Et c'est assez intéressant à lire comment les équipes ont vraiment travaillé en commun sur, on va dire, ce qu'en Belgique on appelle l'art du compromis pour arriver à quelque chose qui soit à la fois viable. Par exemple, les équipes techniques ont dû, alors qu'ils voulaient, du métal qui soit du cobalt, par exemple, parce qu'il y avait une très bonne capacité d'accroche, les équipes marketing ont dit c'est super, mais le cobalt, on peut pas le brosser et le peindre de la manière qu'on veut, donc on va essayer de trouver un autre type de matériel en inox qui va faire le boulot. Enfin voilà, toute une série de petites logiques qui sont à mi-chemin entre l'ingénierie et le marketing pour arriver à un produit viable qui n'a en termes d'ergonomie qu'un seul défaut. Si tant est que c'est un défaut, ça m'a pas vraiment bloqué ni perturbé. C'est un téléphone très très mince qui fait moins d'un demi centimètre d'épaisseur, plat sur l'arrière, puisque c'est sur l'arrière qu'on va attacher un mode. et qui reste néanmoins plutôt agréable visuellement, avec les rondeurs habituelles des Motorola sur les coins, avec, avec un poids qui soit d'ailleurs bluffant, et marketingement reste quelque chose de vendable, quoi. Donc ça c'est assez intéressant. Voilà pour la partie technologique des modes. Vous trouverez sur le site la partie technologique. Après, il y a aussi toute la partie marketing liée à l'écosystème des modes, et ça, j'y reviens dans un instant. Au-delà du challenge technologique que représente un mode magnétique, il est intéressant aussi d'aller pointer ce que fait Motorola en termes de marketing de ce hardware, et comment Motorola essaye de se positionner dans un mince interstice laissé entre les plateformes de téléphonie mobile, iOS et Android, et la partie hardware. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous achetez un objet connecté, que ce soit une montre Fitbit, WeThings, ou un thermostat Nest, ou une lampe U de Philips, ou whatever on peut imaginer, eh bien, vous vous retrouvez toujours coincé par le téléphone mobile qui, parce que les constructeurs ne peuvent ou ne veulent pas développer des interfaces homme-machine spécifiques à leur objet connecté, ou parce qu'ils n'en ont pas la possibilité vu l'espace laissé sur l'objet connecté, se retrouvent finalement à utiliser le téléphone comme méga afficheur ou méga télécommande. Et parfois on a des fonctionnalités qui sont en doublon à la fois sur l'outil technologique, sur l'objet connecté, et qui sont aussi dans le téléphone. Je pense par exemple à des reconnaissances de position, d'accéléromètre, de puce GPS, qui sont à la fois sur un téléphone et à la fois sur l'objet connecté. Et dans cet écosystème pour lequel Apple et Android se sont taillés une part de lion et un caractère indispensable, et ben Motorola essaie de jouer une carte qui peut être maligne, c'est-à-dire de dire ok, on va proposer à des fournisseurs de hardware de réduire encore la taille de leur objet ou de réduire leur coût de fabrication en leur permettant, par une surcouche logicielle, par des SDK, par un usage facilité, d'aller en fait créer un objet connecté qui utilise directement les fonctionnalités du téléphone, que ce soit la puce GPS, que ce soit l'accéléromètre, que ce soit le compte Google, mettons, ou plein d'autres informations qui vont du matériel au logiciel, pour faciliter l'échange avec l'objet connecté, pour que ce dernier ne soit pas simplement connecté au téléphone comme il le serait à un afficheur ou à une télécommande, mais puisse utiliser les fonctions bases du téléphone comme des véritables outils de cet objet connecté. Et donc, par exemple, là, dans les modes qui ont été lancés, il n'y a encore rien de vraiment flabistouflant, il n'y a rien qui m'a vraiment transcendé, si ce n'est peut-être là, aujourd'hui, le partenariat qui a été annoncé il y a une semaine ou deux avec Amazon. Amazon va créer une version réduite, mods, de son Echo. Donc Echo, c'est son enceinte connectée. Bah oui, parce que en étant capable d'utiliser les fonctions mobiles du téléphone, en étant capable d'aller chercher les fonctions bases du téléphone, Amazon peut limiter la taille de son produit et le rendre mobile de facto, puisqu'il peut utiliser le réseau du téléphone et les fonctions réseau du téléphone pour aller chercher les données sur Amazon comme il le ferait par Wi-Fi dans le cadre de la maison. Et voilà, ça c'est pour moi intéressant en termes de marketing industriel, on va dire, pour les nouveaux, qui consiste à se dire ok, moi je fournis une suite logicielle qui permet facilement de faire communiquer la plateforme Android et du hardware. Je donne une possibilité technologique de facilement accrocher un objet connecté à un téléphone d'une manière qui soit assez fluide, et je fournis aussi toute une série logicielle, des SDK, des API qui permettent en fait de faire communiquer facilement un objet connecté avec les fonctions du téléphone ou les fonctionnalités de l'utilisateur. Là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à suivre, parce que c'est vraiment un interstice mince comme un papier à cigarette, mais qui peut-être permettre à des marques comme Lenovo d'aller créer une plateforme de service ou une plateforme de mise en relation, on va dire, entre un téléphone et du hardware, qui peut être intéressant, mais pour lequel Motorola va devoir énormément investir pour qu'on s'approprie les modes et que ça devienne une habitude de consommation. Et c'est peut-être d'ailleurs justement là, sur la capacité de Lenovo à être un game changer, c'est-à-dire d'apporter ces systématiques de mods et d'en faire une technologie, en tout cas propriétaire, qui soit vraiment la plus largement exploitée possible, c'est peut-être là où on a des doutes. Ou en tout cas, moi, j'ai des doutes. Parce qu'aujourd'hui, et je laisse le test du Z2 que j'ai eu pendant 3 mois là en main, vraiment pour le site web, vous irez lire, c'est un bon téléphone, il n'y a rien à dire, il n'y a vraiment pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est peut-être un téléphone qui a un appareil photo un peu trop faible pour mon usage à moi, mais en l'absolu qui reste un très bon milieu de gamme. Voilà, le problème pour moi, c'est la capacité à Lenovo d'aller s'agréger très rapidement une très très large base d'utilisateurs susceptibles de rentrer dans l'écosystème mode. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je vois dans les packs de Noël là, qui sont prévus, le Motorola Z2, que j'ai eu en main, va être vendu à 450€ avec l'enceinte JBL intégrée, ce qui fait le téléphone tout nu aux environs des 400€, ce qui amène le Motorola Z2 dans la gamme des OnePlus 5 et même du Samsung S7, qui a beaucoup perdu de tarifs depuis l'arrivée de son grand frère. Donc c'est peut-être là que, à mon avis, il y a cette crainte que j'ai, moi, en tant qu'utilisateur et observateur du secteur, qui est de dire, est-ce que Motorola va vraiment arriver, avant de jeter le gant, hein, si ça doit être le cas, à fédérer une communauté de jeunes, en l'occurrence, ou de moins jeunes, capables de s'approprier le principe de ces mods qu'on ajoute sur un téléphone pour l'améliorer, ou en améliorer l'expérience, ou en améliorer la spécificité. Parce que moi, j'imagine très très bien, à terme, d'avoir, par exemple, des fonctionnalités très très spécifiques. Là, on a vu sortir sur l'iPhone pas mal de gadgets technologiques qui pour un docteur ou qui pour un diabétique peuvent être très intéressants. Je vois tout à fait bien ce genre de système devenir des mods qui soient accrochables sur un téléphone Motorola. Mais pour arriver à se générer cette base d'utilisateurs qui lui rendent la typologie de hardware, donc ces mods magnétiques intéressant pour un constructeur d'objets connectés, il faut vraiment qu'il y ait déjà une base d'utilisateurs plutôt forte et avec des téléphones à 400€ qui rentrent en compétition avec des milieux de gamme qui sont plutôt efficaces, ça va être difficile. Alors c'est peut-être là où moi j'ai pas de conseils à donner, hein, je suis pas marketeur et j'ai aucun intérêt à la faire, mais je me dis qu'avec un téléphone peut-être plus bas de gamme, plus adressé vers les ados, genre, je pense que ce que fait le groupe fait aujourd'hui, le Huawei P8 ou P9, avec des terminaux qui tournent autour des 200-250€ tout nus, on peut très facilement, je pense, s'agréger cette communauté d'utilisateurs susceptibles de mettre une fois de temps en temps 50€ pour une enceinte, puis 75€ pour un picoprojecteur qui permet de projeter ses films entre amis, ou éventuellement de mettre encore 50 balles de RAM pour un zoom qu'on va aller brancher derrière. Pourquoi ? Bah parce que le téléphone à la base n'aura pas été cher et que comme sont des gens à petit budget, c'est vraiment une cible qui peut être intéressée par une évolutivité du téléphone et même une évolutivité technologique, parce que si un autre téléphone sort chez Motorola plus puissant, plus efficace, plus moderne, ou parce qu'ils l'ont cassé, ils se disent bah tiens, je vais aller en changer, bah ils peuvent conserver tous leurs mods accessibles. Et pour créer cet usage, je pense qu'un téléphone à 400€, c'est encore beaucoup trop cher. Et c'est bien dommage parce que moi, j'ai vraiment, 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 vraiment envie que cette technologie magnétique se développe, parce que je trouve que c'est vraiment génial. Je le dis pas parce que j'ai reçu le téléphone de Lenovo pendant 3 mois. Non, juste parce que vraiment, je trouve ça vraiment génial et vachement intéressant. Alors oui, je sais, on est vraiment très, très loin du concept de base de Nicolas Hulot. Hein. Les Motorola sont aussi peu remplaçables et ont aussi peu d'interchangeabilité de batterie ou de pièces que n'importe quel autre téléphone du marché, donc on évacue la partie écologique du principe. Mais néanmoins, toute cette réflexion autour du Araphone, du phone block, etc., a permis de donner à Lenovo un terminal qui a un petit côté technologique en plus et une possibilité, même infime, de créer un nouvel écosystème. Donc moi, j'espère vraiment que ça va marcher. Voilà, c'était un peu ma longue histoire qui part de Nicolas Hulot et qui arrive au Motorola Z tout plaît, et je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des infos à donner ou des interjections à dire, n'hésitez pas, ça m'intéresse vraiment vraiment beaucoup, et on continue ce podcast dans quelques minutes.
Et puisqu'on était en train de parler d'Internet des objets et de machines qui se branchent à l'arrière des téléphones, on va citer une petite info que j'ai vue dans la presse spécialisée là, sur plusieurs sites, dont Boy Genius Report, la mésaventure d'un médecin, je pense américain, qui s'appelle John Martin, qui était en train de tester un de ses gadgets, qu'on appelle le Butterfly IQ, qui est en gros un système qui permet de faire une échographie en branchant l'appareil sur le cul de son iPhone. En testant l'appareil, il s'est rendu compte que dans le cou, là où il était en train de tester la machine, il avait une série de masses sombres, des masses sombres qu'en tant que médecin, il a rapidement identifié comme étant des cellules cancéreuses. Alors c'est peut-être la meilleure pub qu'on pouvait faire à l'appareil, il fonctionne, il est capable de détecter aussi bien qu'une échographie des cellules cancéreuses, mais c'est quand même une sacrée mauvaise nouvelle pour le médecin. On lui souhaite un bon rétablissement. Sur le site terranova.fr, qui est le site du think tank Terranova, qui est un think tank plutôt orienté à gauche d'après ce que je peux lire, le président de Radio France, Mathieu Gallet, se livre à un exercice de prospective pour les médias publics. Alors au-delà des termes un peu jargonnants mais habituels de la profession, dans lesquels on parle de passage au tout numérique, aux médias globales, de la préparation des médias à l'avenir et notamment à la recherche vocale, il la cite nommément, on peut lire aussi plusieurs éléments qui ont attiré mon attention. Le premier, c'est l'appel de Mathieu Gallet à une transformation de la radio redevance et de la redevance télé également, qui aujourd'hui est calquée sur la taxe d'habitation en France et se base sur la possession ou non d'un poste de télévision dans le foyer. Lui appelle à une modification de cette taxe pour qu'elle s'applique à tous les foyers, indépendamment de la possession ou non d'une télévision, d'une radio, ce qui permettrait, selon lui, un financement ambitieux et tourné vers l'avenir des médias publics. Il y explique aussi comment, selon lui, les entreprises médiatiques publiques doivent être amenées à changer. Alors changer, ça veut dire d'abord se mettre en ligne pour le numérique. Ce qui n'est pas forcément une mince affaire dans la mesure où il y a tout un passé d'un type de médias installé dans une entreprise médiatique et c'est très difficile pour les gens qui ont pratiqué le même support pendant une vingtaine d'années ou une trentaine d'années d'évoluer vers le numérique dans sa plus large acception, étant entendu que aujourd'hui le support numérique qu'on utilise ne sera pas forcément celui qu'on utilisera demain. Donc il milite pour que des formations massives soient organisées. Mais plus intéressant, parce que là c'est beaucoup du vœu pieux, on va dire. Mais là où c'est plus intéressant, c'est qu'il propose que les entreprises médiatiques adoptent deux concepts qui sont très connus des développeurs et des chefs de projet, par exemple, qui sont la méthodologie agile. Il propose qu'on soit capable très facilement de faire intervenir des équipes pluridisciplinaires, multiples, sur des projets qui soient évolutifs et éventuellement pivotables en cours de réalisation. La deuxième partie, c'est qu'il propose justement qu'on travaille beaucoup plus en mode projet, qu'on soit capable d'avoir des équipes interdisciplinaires ou transdisciplinaires rassemblées, comme le cas de France Info en était un, d'être capable de se mettre en ligne pour travailler ensemble sur un concept, une idée, une proof of concept, mais de manière très rapide et surtout multidimensionnelle, c'est-à-dire avec différents métiers. Et là, je pense qu'il y a une vraie réflexion intéressante sur l'avenir du métier et la possibilité d'être beaucoup plus physique, rapide sur un secteur médiatique sur lequel les médias publics sont très largement challengés. Étrangement, le rapport de Mathieu Gallet dans Terranova me semble oublier une dimension qui, à mon avis, va être majeure pour les années à venir, c'est-à-dire pour la décennie qui vient. Mathieu Gallet évoque la possibilité et le besoin pour les médias publics de se préparer à l'arrivée de nouveaux types de consommation, notamment les consommations vocales avec tous les assistants personnels. Le Google Home, Alexa vont être mus, en tout cas par des recherches vocales. Et il faut que les médias et les contenus médiatiques soient accessibles par ce type de recherche. Donc lui, il évoque ça très précisément. Ce qu'il n'évoque pas, par contre, c'est la possibilité pour un média de rendre son contenu mobilisable sur tout type de support. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu ou prou, quand on développe un nouveau support dans un média, on est obligé de repartir de zéro. C'est-à-dire qu'on repart de la matière brute, la matière vidéo brute pour une chaîne de télé, la matière sonore pour une chaîne de radio, et on recommence tout le travail. C'est-à-dire qu'on va refaire des découpes, on va les remettre en encapsulation sur un site web ou sur un site mobile ou dans une application. Et en fait, finalement, on est capable de répondre à des besoins très spécifiques de manière très spécifique. On n'a pas encore envisagé le média dans sa globalité, c'est-à-dire dans sa capacité à anticiper n'importe quel support qu'on pourrait imaginer inventer. Exemple, pour une radio, on pourrait très bien imaginer que les unités sonores de contenu, une émission, un programme, une chronique dans une émission, deviennent autant de briques de contenu qui soient mobilisables, quel que soit le support qu'on invente. Par exemple, si demain on fait une recherche vocale, cette brique de contenu, il faudra qu'elle ait des métadonnées qui expliquent quel est l'invité, de quoi il était question dans la chronique ou dans ce morceau d'émission, pour que si on décide d'inventer un miroir connecté et que ça prend et que ce soit génial et que tout le monde veuille un miroir connecté, on puisse très rapidement créer une chaîne de contenu disponible sur ce miroir connecté, avec, comme on ferait une maison en Lego, des briques qu'on additionne. On dirait, tiens, je prends telle chronique dans telle émission, plus tel invité qui vient de telle émission, et je crée une chaîne de radio, une chaîne de télé qui soit susceptible d'être active sur ce miroir connecté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, très largement, à mon avis, on ne pourra pas systématiquement, dans un avenir plus ou moins proche, mettre chaque fois un opérateur de saisie ou de transformation de cette matière brute de contenu sonore ou de contenu vidéo pour l'adapter, quel que soit le support que les GAFA et autres vont nous inventer. C'est très vrai pour les assistants audio, par exemple, maintenant, qui vont obliger les radios à repenser leur mode de syndication de contenu ou de recherche de contenu. Mais ce sera vrai dans 6 mois avec les montres connectées, dans 1 an avec les miroirs connectés, dans 2 ans avec les voitures connectées. Et on ne pourra pas systématiquement mettre un opérateur de contenu derrière chaque invention. Donc il faudra être capable très rapidement d'avoir des bases de données de contenu qui soient mobilisables, quel que soit le support, et concaténables pour recréer un nouveau service. Et ça, dans le rapport de Mathieu Gallet, il n'y a pas cette création de grandes bases de données super référencées, sorte de INA personnelle des contenus d'une entreprise médiatique. Je pense que ça va être un des enjeux de l'avenir, d'être capable de créer ces grandes fermes de contenus propres aux médias qu'on pourra mobiliser, quel que soit le support, en créant les flux RSS, les flux XML ou les API et les web services qui pourront nourrir n'importe quel support. Et justement, cette création de bases de données un peu qui référence des contenus et qui soit capable de leur donner une plus-value par la métadonnée ou par l'identification du contenu qu'ils proposent, genre le nom de l'invité, le moment de la chronique, le contexte dans lequel cet article ou cette chronique ou cette partie d'émission a été enregistrée. Mais ça, c'est un métier qui me semble très très journalistique. Mais de dire à des journalistes qui vont devoir travailler avec des responsables de bases de données pour créer un nouveau média qui soit un média de picorage qu'on pourrait aller additionner par briques, on est loin d'avoir vaincu tous les corporatismes éventuels qui permettent à un journaliste de se dire que de référencer un contenu, d'écrire un joli article en métadonnées pour une vidéo, un son, une thématique particulière, c'est aussi du journalisme. Pourquoi ? Parce que souvent les outils qui permettent de faire ces bases de données sont un peu effrayants ou rébarbatifs. Et sur ce terrain-là, on n'a pas encore fait la victoire des idées qui permettent à tout le monde de ne plus avoir peur des outils techniques. Et de se dire que finalement, le métier de journaliste, quel que soit le support, il doit être le même, c'est-à-dire vérifier les 5 W et être capable de faire ses recherches, faire la mise en contexte, etc. Allez, on passe à la suite. Saviez-vous que vous avez à peu près 7 minutes pour vous rétracter dans le cadre d'une conversation WhatsApp? C'est en effet le minutage que WhatsApp autorise pour retirer un message et le rendre invisible de toutes les personnes incluses à une conversation. Attention quand même, WhatsApp signifie aux utilisateurs qu'un message avait été posté et a été retiré, mais il reste impossible à voir pour tous les utilisateurs. C'est une information qui a été publiée sur le site Les Numériques. De Liverpool, mais à part en essayant d'y raccrocher les papapalalap de Rummer, il est vraiment difficile de rattacher directement le rock pop de Michael Head au Fab Four beatlesien. Pas plus d'ailleurs qu'on peut trouver de références directes aux années 80,
année où pourtant on découvrait Mick Head pour la première fois. À part peut-être dans ce goût pour la guitare électrique un brin rageuse, mais toujours en léger retrait de la voix et de sa seconde guitare. Non, c'est bien plutôt du côté des groupes à Telecaster, les groupes qui ont fait fureur dans les années 90, qu'il faut aller chercher les influences sur le son de Adios Señor Pussycat, son nouvel album. Pour celui qui fut pourtant le leader des Pale Fontaines, auteur d'un succès plus critique que vraiment public d'ailleurs, au mi-temps des années 80. Passé, on va dire, politique, le freluquet de jadis aux airs de punk, coincé entre son goût pour la batterie martiale et la trompette vraiment caractéristique de ces années-là, et les mélodies new wave de l'autre côté, Michael Head conserve une facilité à développer des mélodies vraiment plus fines qu'elles n'y paraissent du premier abord. Ça, c'est vraiment le point qui nous permet de raccrocher à son passé, on va dire. Mais en fait, c'est à peu près tout. Pour le son de Adios, les références qui me viennent en tête directement, allez, on va faire un peu de name dropping, ce sont des groupes comme Teenage Fan Club, The Otters, The Levelers, Tindersticks, ou même d'ailleurs Divine Comedy à l'époque de l'album Casanova. You can do what you do. You can go anywhere with me. Michael Head d'ailleurs les a peut-être influencés à l'époque via les deux albums des Pale Fontaines qui sont sortis dans les années 80 ou via son groupe Shack qui succéda à la séparation du groupe originel des Pale Fontaines et qui a eu au moins un album dans les années 90. Qui sait, peut-être Michael Head vient réclamer son dû en 2017 sur trois générations de pop-eux qui ont suivi son exemple. Le son de Adios Señor Pussycat, bien que bruitiste, est l'œuvre d'un homme de 55 ans, parce qu'il a 55 ans le bonhomme, qui a roulé sa bosse et a appris à être en paix avec lui-même. Là, ça s'entend vraiment même sur sa voix. Head contient la fougue morbide du jeune homme qu'il fut, les compositions prennent de l'atmosphère, de la subtilité. Il y a des superbes arrangements, des chorus, il y a de l'air, de l'amplitude, même si c'est un air chargé de la pluie britannique, on s'y fait assez rapidement. La guitare folk milite sa cause au milieu de tout ça, dans un vrombissement électrique, l'auteur navigue à vue, qu'il soit sensible aux riffs, ou qu'il préfère les ballades folk. Il reçoit les deux, dans la même chanson parfois. La voix de Michael Head est grave, posée, jamais criarde. On songe parfois à Richard Hawley, un peu moins grave, ou on va dire au Neil Annon de 2016. Neil Annon, leader de Divine Comedy, et d'ailleurs Divine Comedy c'est peut-être... finalement la meilleure comparaison globale qu'on peut trouver à Michael Head, si on arrive à se représenter un Divine Comedy à qui on aurait retiré vraiment tout le côté dandy, pour ajouter plutôt une fêlure ou de la cabosse, quoi. On pourrait même parfois le comparer à ceux qui connaissent, mais alors là ça devient super pointu, Christy Moore, ce chanteur folk anthémique pour les Irlandais. Cette impression d'aller fouler du pied le Buren ou le Connemara est parfois même renforcée dans les arrangements, puisqu'on entend de temps en temps une subtile tin whistle, vous savez, cette flûte en métal qu'on entend dans tous les pubs irlandais quand on va se balader par là, pour amuser les touristes, certes. Y a ça, mais il y a aussi des frôlements de cordes, alors j'arrive pas à savoir si c'est du violon ou du violoncelle, mais il y a ces côtés cordes pincées, tin whistle, qui sont très très franchement irlandaises et qui s'invitent dans les arrangements assez régulièrement. Adios Senior Pussycat, c'est un album qui est classique, on va dire. C'est du rock 90 joué en 2017, par un revenant des années 80, pour un public contemporain. Vas-y, démarre-toi avec tout ça, et tu vas retrouver le sens de la phrase. Les mélodies, elles sont tout en charme, sans jamais des œillades putassières ou des envies d'aller chercher le chaland là où il se trouve. Non, parfaitement simple, efficace, classique de chez classique. Mais aussi complètement parfaite pour l'époque fraîche et humide qui est en train d'arriver là et dans laquelle l'album paraît. C'est vraiment mon album de novembre et je suis très content que Benoît Richard du site Benzine Mag m'ait conseillé d'aller l'écouter. Adios, amigo. I'm gonna have to set you free. Did you ever hear them say? Dans cette chronique musique, on parlait de l'album de Michael Head qui s'appelle Adios, Señor Pussycat. C'est un album qui est paru chez Violet Records, il est totalement disponible sur Spotify et je pourrais bien mettre le lien juste après. Dans la chronique, vous avez pu entendre les extraits de Rumor, qui était le premier morceau. Le second morceau, c'était un extrait des Pale Fontaines, qui était la chanson Jeans Not Happening, de leur second album From Across the Kitchen Table, qui est disponible chez Virgin. Troisième morceau, c'était Josephine, suivi de Working Family. Ensuite, nous avions 4 and 4 Still Makes 8. Et enfin, pour clôturer, Adios Amigos. Si avec ça, vous n'avez pas envie de l'acheter, je ne sais pas ce qu'il faut faire.